France Musique. Musicopolis. Musique en Europe, un bien commun. Chapitre 3, où l'économie fait sa grande entrée. Nous avons vu dans le deuxième chapitre de notre série comment en Europe, la musique se diffuse à partir d'un lieu de départ jusqu'à se propager sur tout le continent. C'était le cas à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Venus d'un tout petit coin de terre près de la mer du Nord, les musiciens franco-flamands se sont répandus partout, et non seulement eux, mais leur manière d'écrire la musique, leur style musical, qui s'est mis à infuser tous les genres de musique. Voilà quelque chose qu'on va trouver encore à d'autres époques. Un phénomène musical naît quelque part, puis il fait le buzz, et on le retrouve absolument partout en Europe. Après la polyphonie franco-flamande, ce sera le tour de l'opéra italien. Avant de continuer dans le vif du sujet de l'opéra italien, je dois revenir en arrière. À la fin du deuxième chapitre, je m'étais arrêtée à la réforme, un mouvement dont les conséquences se sont fait sentir sur tous les plans, religieux et spirituels certes, mais aussi politique, militaire, économique, social et bien sûr musical, cela dans toute l'Europe. Sur le plan musical, les conséquences de la réforme vont se faire sentir bientôt un peu partout. Luther avait voulu une simplification du chant d'église pour qu'il soit d'une part dans la langue du peuple, l'allemand pour ce qu'il concerne, et d'autre part chantable par tous et accessible à tous. Il transforme les cantiques en chorales qui vont devenir le centre du service dans la religion luthérienne. La réforme engendre très vite une opposition farouche de l'Église et de certains dirigeants, dont Charles Quint, et Luther va bientôt être excommunié. Mais certains éléments de sa réforme font néanmoins réfléchir les autorités ecclésiastiques catholiques qui vont répondre par la contre-réforme. De ce côté-là aussi, la réflexion va aboutir à une simplification du langage musical. Les volutes mélodiques qui se faisaient entendre toutes simultanément dans la polyphonie et qui rendaient le texte incompréhensible vont être proscrites. Enfin, ça c'est ce qu'auraient voulu les plus radicaux parmi les cardinaux réunis en concile à Trente pour parler de ces sujets. Ils obtiendront du moins qu'au lieu de faire chanter le texte en canon, ce qui a pour effet qu'on entend plusieurs mots à la fois et qu'on n'y comprend rien, certains passages soient entonnés par toutes les voix en même temps pour qu'on profite enfin du texte. Cette volonté de comprendre le texte chanté, qui s'exprime à l'Église, chez les protestants comme chez les catholiques, va, on s'en doute, prendre de plus en plus d'importance aussi dans la musique profane. Bien sûr, dans les diverses formes de chansons, en français, en flamand, en italien, en allemand, en anglais, la simplification existait déjà. Et d'autant plus qu'on pouvait très bien chanter seulement la voix supérieure avec le texte et jouer les autres sur un instrument, le luth par exemple, de manière à ce qu'on puisse distinguer tous les mots.
Come again, sweet love doth now invite. Thou canst not pierce her heart, for I that too approve by sighs and tears more hot than are thy shafts. Did tempt while she for triumph laughs. Sighs and tears more hot than are thy shafts. Did tempt while she for triumph laughs.
Dans notre Europe du bien commun musical, que je voudrais cerner ici, chaque région a néanmoins ses particularités, sa langue et ses caractéristiques individuelles. En musique, ces particularités sont parfois le fait d'une toute petite portion de la population, un petit cercle, un salon, dont les réunions vont pourtant avoir des conséquences incommensurables. À Florence, dans les années 70 et 80 du XVIe siècle, un petit groupe d'intellectuels, de poètes et de musiciens se réunit chez le comte Giovanni Bardi. La Renaissance avait auparavant remis au goût du jour l'Antiquité grecque et son théâtre. Pour améliorer l'état de la musique, que le petit cercle trouve en déclin, notamment en raison de l'abus de la polyphonie qui empêche de profiter des paroles, la réflexion se porte sur la déclamation de la tragédie antique entre le parler et le chanter. Après moult essais et discussions, les expérimentations des compositeurs aboutissent à l'établissement de ce qu'on va appeler monodie accompagnée. Un chant, une mélodie, accompagnée par des instruments, de telle manière que la voix est mise en avant et que rien ne vient entraver la compréhension du texte. Alors bien sûr, ce qui se passe à Florence avec cette monodie accompagnée n'est pas une invention à proprement parler, puisque depuis longtemps, dans toute l'Europe, dans les chansons, les compositeurs qui voulaient rendre le texte intelligible avaient trouvé des moyens d'accompagner la voix simplement, sans avoir recours à toutes les subtilités savantes de la polyphonie. Comme toujours, lorsqu'on observe d'un peu plus près, on voit bien que les dites nouveautés ne sont pas nées en un jour ni en un lieu. Il y a des évolutions, souvent longues, il y a aussi un air du temps, et tout cela mène plus ou moins vite à ce qu'on prend pour des créations à partir de rien, parce qu'on ignore beaucoup de ce qui s'est passé. C'en est ainsi de la nouvelle monodie, du nouveau style récitatif et de l'apparition soudaine de l'opéra.
Degna prole di lui e l'universo affrena. Son che il tutto circondi e il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, vedestu mai di me più lieto e fortunato amare? Felice il giorno mio ben che pria ti vidi, e più felice.
Dans la plupart des histoires de la musique, on date les débuts de l'opéra de l'année 1607, avec l'Orfeo de Monteverdi, donné à Mantoue au théâtre de la cour du duc de Gonzague, deux fois cette année-là pendant la période du carnaval. Bien sûr, comme je le disais juste avant cette air d'Orphée chantée par Victor Torres, le genre nouveau de l'opéra n'est pas sorti par magie d'un chapeau, et il y a déjà eu des opéras avant 1607. Qu'on sache, le premier des premiers opéras a été donné en 1598. C'était le Daphné de Jacopo Peri, représenté au Palais Corsi à Florence. Corsi était un rival du Bardi dont je parlais tout à l'heure. En 1600, on pouvait voir à Florence également le Eurydice du même Peri. Et deux ans plus tard, un autre Eurydice, cette fois de Giulio Caccini. Et entre-temps, un opéra sacré de Cavalieri, la représentation de l'âme et du corps, à Rome. Si l'Orfeo de Monteverdi est le plus connu de tous ses ouvrages, c'est qu'il est considéré comme plus génial que les autres. Ceci dit, on peut remarquer que ces quatre opéras ont eu à ce moment-là une diffusion totalement confidentielle. Une ou deux représentations dans un salon, et puis basta. Heureusement, ils ont été publiés, au moins en partie, ce qui leur a permis de voyager dans le temps jusqu'à nos jours. Et ça n'est là que le début de l'histoire. Je ne l'ai pas encore fait remarquer, mais à chaque fois qu'une innovation ou une évolution musicale s'est diffusée en Europe, elle avait toujours pour origine un coin de territoire où existait une certaine stabilité politique et économique. C'était le cas à Rome, siège de la papauté, qui décidait d'unifier le chant grégorien. Le cas de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où les compositeurs, des ecclésiastiques qui n'avaient pas le souci du lendemain et qui disposaient d'un chœur pour chanter leur création, pouvaient penser à écrire de magnifiques pièces à trois ou quatre voix. C'était encore le cas du petit coin franco-flamand où les maîtrises de riches cathédrales, abbayes et grandes églises pouvaient entretenir et former des enfants de chœur qui deviendraient à leur tour des compositeurs recherchés. Et bien sûr, c'est le cas à Florence et à Mantoue, chez les Bardi ou les Corsi, où on peut se préoccuper de graves questions artistiques et consacrer un argent fou à la production d'une ou deux représentations d'opéra sans lendemain. Ce besoin d'une relative stabilité politique et économique pour que les innovations musicales voient le jour explique aussi que souvent, les plus petites entités territoriales, les plus petits pays n'ont pas été à l'origine de ces innovations, ce qui n'empêchait pas les nouveautés d'y arriver un jour ou l'autre. Mais revenons à l'opéra et à l'économie.
« baci, baci.
Non si duce ai baci, ai baci.
Non si duce a baci, ai baci.
A baci, a baci, a baci, a baci, a baci.
Va pur, va seco, altro che suon di casti baci e duri, pubblicherò per la foresta l'eco. Va pur, va seco.
1637 est une année extrêmement importante pour la musique, pour l'opéra, pour le public, pour la diffusion de la musique et pour le business. C'est l'année où une troupe itinérante de Rome vient donner à Venise un spectacle d'opéra. C'est la première fois qu'un opéra est donné dans un théâtre public payant. Et donc, pour la première fois, des gens qui ne font partie ni d'une cour ni d'un cercle de nobles et d'intellectuels ont accès à un « dramma per musica », comme on dit alors, une pièce de théâtre entièrement chantée. Bientôt, en quelques années à peine, cette première expérience à petite échelle allait se transformer en une industrie à part entière, avec ses impresarios, ses entrepreneurs, ses fortunes, pas beaucoup, et ses faillites, énormément.
Ah, di guerriero il cor, se donna in volto.
O saggio Ulisse, questi mi Achille sepolto.
Questi è il fatal garzone che andiamo ricercando.
Questi è l'Ippeo,
stretto consiglio.
Achille, metti scoperto!
Che di Deo più non posso sostenere il torrente. Tutta la greca gente per te non voglio furibonda addosso.
Une première maison d'opéra public payant à Venise en 1637, et bientôt 6 dans la même ville, puis d'autres dans toutes les villes italiennes, puis partout en Europe. En quelques années, l'opéra devient un spectacle européen. Choisi de m'étendre si longtemps sur le phénomène de l'opéra, c'est qu'il va avoir des conséquences énormes sur ce que j'ai appelé le bien commun musical européen. Certes, il s'agit dans les premiers temps d'opéra italien. Et c'est bien en tant que spectacle italien qu'il se propage dans les premiers temps. De même que la polyphonie franco-flamande avait infusé la musique de tous les coins d'Europe, de même l'opéra italien se répand partout. Et avec l'opéra, l'Italie devient le grand marché européen des musiciens, avec tous ces chanteurs éduqués dans les écoles de chant incroyablement performantes qu'on trouve partout dans la péninsule, et notamment à Venise et à Naples. Et aussi ces instrumentistes, tout particulièrement ces violonistes dont la virtuosité se déploie grâce à des luthiers prodigieux. Ce qui a pour effet d'ailleurs que la langue italienne elle-même devient un espéranto musical européen. Et que depuis cette époque, on parle d'allegro, de presto, de vivace, de piano ou de crescendo. Ce concerto pour violon, l'été, des quatre saisons de Vivaldi, lui aussi s'est répandu dans toute l'Europe, et cela grâce à un éditeur basé à Amsterdam et grâce aussi à de multiples copies, pirates pour la plupart.
Thank you.
L'Europe, dans la deuxième moitié du XVIIe et la plus grande partie du XVIIIe siècle, chante et joue italien. Et quand je dis l'Europe, je parle d'une soixantaine de cours et de villes sur tout le territoire européen, en Europe centrale et dans les royaumes d'Espagne, du Portugal, d'Angleterre, du Danemark, de Suède, de Russie. En France, en revanche, même si l'opéra italien a fait quelques incursions vers le milieu du XVIIe, une branche nouvelle de l'opéra s'est vite créée par la volonté politique de Louis XIV, qui voulait par là exprimer et montrer sa puissance à la face du monde. Si l'opéra français n'a pas gagné la bataille face à l'opéra italien, en revanche, pour la danse, le goût français et versaillais s'est imposé partout. Voici bien un exemple de bien commun musical européen. Une bourrée, danse française, composée par George Friedrich Händel, musicien né en Allemagne, éduqué en partie en Italie et vivant en Angleterre, où il écrit des opéras italiens. Si les chanteurs et instrumentistes italiens se sont répandus dans toute l'Europe, ce sont en revanche les maîtres de ballet français qui se sont imposés absolument partout. C'est pourquoi dans la danse, l'espéranto chorégraphique est français. De Dublin à Saint-Pétersbourg, on parle, en français dans le texte, d'entrechat, de menuet, de pasquier, de cabriole ou de grand jeté. Nombreux sont les compositeurs européens qui vont cultiver plusieurs styles de musique. Le goût italien pour le chant et les concertos, le goût français pour la danse. Et tandis que certains vont se livrer à de véritables batailles musicales pour les opposer, d'autres voudront au contraire les réunir. Mais au-delà de tous ces goûts, qu'ils soient réunis ou non, le phénomène important qui apparaît en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la montée de la bourgeoisie. Une classe importante pour la musique, puisqu'elle va fréquenter les nouveaux concerts publics et payants, acheter des partitions et développer une pratique amateur à la maison. La musique n'est plus l'apanage de l'église, des cours ou des bals de jours de fête. Première symphonie en mi bémol majeur, Köchel 16, de Wolfgang Amadeus Mozart, autre musicien tout à fait européen. Le Amsterdam Baroque Orchestra, dirigé par Ton Koopman. Tout le programme et la réécoute de ce podcast sont sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Dans le quatrième épisode de cette série, il sera question de l'Europe des nations. Cette équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Tahar Bouklifa et Dofar Guérit pour le mixage et Léa Gramusset pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.